des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel parcours, à bien des égards exceptionnel, puisque je reçois sur notre antenne de l'Institut de France le gouverneur militaire de Paris, le général de corps d'armée, Bruno Dary. Monsieur le gouverneur, bonjour. Merci d'avoir accepté le principe de cette invitation. J'observe que cette rencontre s'inscrit dans la grande proximité qui unit l'Institut de France et les armées, nombre d'académiciens partageant leurs mérites éminents entre le terrain des armées et celui de la coupole. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de remonter loin dans le temps pour en trouver une illustration. Pierre Messmer, par exemple, chancelier de l'Institut, avait à l'évidence, au cours de son illustre carrière, montré son attachement à la fois au Parlement des savants et aux armées, dont il fut le ministre, après avoir été un soldat d'exception. Je relève d'ailleurs des points de convergence avec votre propre parcours, la fidélité à la Légion étrangère, une culture dépassant très largement le métier des armes, le droit pour lui, les sciences politiques pour vous, et bien sûr, l'action et le risque. Ce qui permit d'ailleurs à François Jacob, en l'accueillant sous la coupole, de déclarer « Vous symbolisez l'action et l'aventure, vous êtes un homme de combat », une expression qui, je crois, pourrait aussi bien vous qualifier, en tout cas qualifier votre parcours. Nous allons y revenir. Le défilé militaire du 14 juillet à Paris, grand symbole de la République, place en première ligne le gouverneur militaire de Paris, responsable de cette organisation. On ne pourrait donc pas vous manquer, vous accompagner le président de la République au cours de cette cérémonie. Mais cette grande visibilité est loin d'éclairer pour le grand public l'ensemble des missions qui vous sont dévolues. Ainsi, si vous en êtes d'accord, nous braquerons d'abord le projecteur en premier lieu sur les missions du GMP, les militaires adorent les abréviations, entendez le gouverneur militaire de Paris. Je vous propose dans une deuxième partie de cet entretien d'aller à votre rencontre en répondant à la question légitime de savoir quel parcours d'homme et de soldat vous a conduit à ces responsabilités de premier plan. Enfin, pour conclure, nous évoquerons cette immense entreprise qui consiste en la préparation et en la réalisation du défilé du 14 juillet à Paris. Venons donc aux missions du GMP. Je rappelle pour faire court que votre fonction s'inscrit dans une lignée historique à la fois royale et impériale. On peut en effet considérer que le premier gouverneur de Paris fut Louis, comte d'Anjou et du Maine, qui, à la demande de son frère, futur Charles V, en 1356, assuma les fonctions de lieutenant du dauphin et du roi de Paris, à Paris. Et c'est au maréchal de France Murat, roi de Naples, qu'il appartint, après l'intermède de la Révolution, de redonner à la fonction sa place, son rayonnement, sa place éminente dans la vie parisienne. Alors, mon général, voilà maintenant près d'un an que vous êtes dans vos nouvelles fonctions. Quelles sont les missions du gouverneur militaire de Paris ?
Après Murat et après Messmer, là, comme on dit chez nous de façon un peu lapidaire, vous mettez la barre haute.
Mais je sais que vous pouvez la sauter allègrement.
Voilà, donc le gouverneur militaire de Paris, comme puisque vous avez défloré le sujet, le GMP, puisque nous aimons les anacronymes, nous n'en avons pas le monopole, je vous rassure tout de suite.
Absolument.
En fin de compte, j'ai un seul képi et trois casquettes. Alors la première casquette, celle que je qualifierais de la plus prestigieuse, c'est celle de gouverneur militaire de Paris, c'est-à-dire représenter l'autorité militaire à Paris, la représenter, comme vous l'avez dit, le 14 juillet, mais également le 18 juin, le 11 novembre, chaque fois qu'il y a une cérémonie militaire. Chaque fois, des honneurs officiels sont rendus à une personnalité politique qui vient en visite en France. Et puis, chaque fois que l'armée, dans son sens le plus noble ou le plus précis ou le plus général, participe. Donc, je suis invité en tant que gouverneur, par exemple, à l'Académie française, pour représenter les armées. Et si je ne suis pas disponible, je vais me faire représenter. Je tiens à me faire représenter par un camarade officier général. Donc, c'est la partie la plus prestigieuse, mais qui revêt un caractère très important, notamment le 14 juillet, mais je pense qu'on y reviendra tout
absolument,
à l'heure.
Absolument.
Le deuxième volet, c'est le volet le plus opérationnel, c'est que je suis officier général de la zone de défense, pour reprendre une abréviation OGZD, c'est-à-dire je suis monsieur Vigipirate. En quelque sorte, c'est que dès que vous voyez des soldats qui sont déployés dans un site symbolique ou dans les rues de Paris et d'Île-de-France pour assurer la sécurité ou pour participer à la sécurité et notamment à la lutte contre le terrorisme, car c'est la mission, la finalité de Vigipirate est bien de lutter contre le terrorisme, et bien tous ces soldats sont sous mon commandement. On dirait dans notre jargon militaire, dans mon contrôle opérationnel, hein, puisque dès que des soldats sont engagés dans une opération, et Vigipirate est une opération, ils sont placés de facto sous l'autorité du président de la République qui est chef des armées, et du chef d'état-major des armées, le général Georges Lain, qui est ce que l'on appelle le commandant opérationnel, et donc il a l'autorité sur tout soldat engagé en opération. Donc c'est en permanence, en moyenne, hein, 600 soldats qui patrouillent dans les sites où se trouve la population. Les gares, les aérogares, les sites symboliques comme la Tour Eiffel, la Défense, le centre de Disneyland, etc. etc.
On est un peu dans une période rouge, là, ces temps-ci, donc pas plus.
Oui, on est en période rouge depuis 1995. Donc, oui. Si vous voulez, on est toujours dans le rouge parce que la menace elle reste toujours diffuse et qu'on a du mal à baisser la garde. Je crois que ce qui est important dans Vigipirate, c'est d'abord la participation des armées. Hein, c'est une spécificité française. Hein, je suis en contact avec mon camarade qui a une mission similaire à Londres et pareil en Espagne. Et pour eux, il n'est pas dans leur culture d'engager des soldats, c'est-à-dire la force armée, en tenue de combat dans les rues de Paris. Alors que nous, bon, la mission a commencé voici un peu plus de 20 ans, dans les années 85-86, aux frontières, puis ça a évolué, puis a repris depuis les attentats de Port-Royal et la gare Saint-Michel. En 96, donc ça fait 12 ans, et elles ont été ininterrompues depuis 12 ans. Donc c'est une mission opérationnelle qui est essentielle. Et ce que je dis souvent, qui a deux volets, rassurer, dissuader. Dissuader des terroristes potentiels, hein, et rassurer, c'est rassurer la population parisienne pour pas qu'il y ait de psychose. Et notre meilleure arme, hein, ces 600 soldats qui sont déployés jour et nuit, et quelles que soient les circonstances, ce sont leurs yeux. Hein, donc c'est 600 perdus qui sont déployés sous mon commandement, mais au profit du préfet de police de Paris, parce que si moi j'assure l'autorité militaire, le commandement militaire, hein, c'est au profit du préfet de police de Paris qui, D'accord. lui, est seul responsable de la sécurité à Paris. D'accord. Donc ça, c'est la mission la plus prestigieuse, la mission la plus opérationnelle. Et la troisième mission, c'est, je ne vais pas dire la plus ingrate ou disons, la moins visible, hein, c'est une mission de soutien aux forces terrestres qui sont en Île-de-France, j'assure le commandement territorial de l'Île-de-France, D'accord. et également, pour un clin d'œil, des Îles-de-France, parce que toutes les structures de l'armée de terre qui sont stationnées outre-mer, Guyane, la Polynésie, l'île de la Réunion, oui. la Guadeloupe, la Martinique, etc. Donc toutes les formations terrestres qui sont stationnées outre-mer ont un commandement organique, c'est-à-dire qui assure le soutien, la gestion des hommes, le soutien des matériels, le soutien d'infrastructures, la gestion administrative, l'alimentation, etc.
C'est l'île, donc, au sens large du terme.
Les îles. J'ai l'île de France et les îles de France.
Ah, oui, si d'accord, ça, par contre, on découvre.
Oui.
D'accord. Juste une question. Donc, vous avez aussi à accueillir les chefs d'État. Enfin, vous participez
chaque fois qu'un chef d'État arrive, les honneurs lui sont rendus donc, à Orly, au salon d'honneur. Et devant le salon d'honneur, un détachement en armes, alors plus ou moins important en fonction de l'importance qui est donné. Et moi, j'y vais personnellement, en général, lorsque c'est une visite d'État ou une visite très symbolique.
D'accord.
Je m'explique, les visites très symboliques, on a accueilli en septembre, en octobre, Nelson Mandela,
ou
une visite d'État, c'était Shimon Peres, la dernière visite d'État.
D'accord.
Les visites d'État sont assez rares, parce que c'est un protocole qui est assez lourd pour le pays. Et souvent, la majorité des visites, je pense celle de George Bush, c'était une visite normale et sans protocole particulier.
Oui, mais par contre, lorsque c'est avec un protocole particulier, vous assistez personnellement.
Je suis personnellement présent. Oui.
Une question sous forme de clin d'œil. Je sais que vous êtes très attentif à la réserve citoyenne.
Oui.
Vous pouvez nous en dire un mot très très bref.
Bien sûr, c'est la réserve citoyenne, ça regroupe... Je précise qu'elle est à différencier de la réserve opérationnelle qui, eux, sont engagés et prennent le treillis pour remplir des missions grosso modo identiques aux unités d'actives. La réserve citoyenne, au contraire, sont des gens qui ont le goût de la défense, qui ont une certaine idée de la France et qui veulent rendre service, mais en gardant leur tenue civile. Et donc, sur Paris, donc, j'ai entre 150 et 200 réservistes citoyens, hein, c'est la partie armée de terre, hein, que je réunis une fois par mois autour d'une conférence d'une séance d'information et de questions-réponses, et puis d'un repas. On appelle ça les lundis du gouverneur, c'est le premier lundi de chaque mois. Et puis, nous organisons de temps en temps des activités, un colloque, on a organisé cette année deux colloques, un sur le tour du film La Force Noire, en faisant venir un certain nombre de collégiens et de lycéens, et un autre sur l'intégration au regard de la culture militaire, en faisant intervenir différentes structures de la défense pour montrer comment on intègre. Donc, des activités régulières d'information, de visite, des activités de colloque, d'information également, mais en faisant venir un large public, et puis quelques activités comme une coupe de golf, une coupe de bridge, etc., pour
préserver le lien un petit peu entre la société civile et citoyenne, et les armées. Quoi,
enfin, oui, absolument. Donc, et puis, ce sont autant de relais pour nous dans la société civile.
Tout à fait. Donc, je sais que vous êtes très attentif à ce sujet. Mais écoutez, on a fait à peu près le tour des principales missions du GMP. Si vous voulez bien, je vais maintenant aborder un peu plus quelque chose de plus personnel, votre parcours personnel. Chacun aura compris que vos fonctions sont majeures et qu'elles illustrent le lien ininterrompu entre la nation et les armées. Bref, la France républicaine. Quel est votre itinéraire? Autrement dit, qui est Bruno Dary? Alors, nous savons que vous êtes né en Haute-Provence, à Barcelonnette, dans une famille, si j'ai bien compris, de tradition militaire.
Oui, mon père était militaire, mon grand-père, un de mes arrière-grands-pères, qui était à Berdin.
Donc il y avait quand même un lien militaire, une antériorité.
Un atavisme.
Voilà, donc c'est une région qui aurait pu vous inviter à choisir le corps plutôt des chasseurs alpins, en raison du relief environnant.
Oui, absolument.
Mais en fait, il n'en a rien été, puisque après Saint-Cyr, dont vous êtes sorti, je le rappelle, major de la promotion générale de Linares, vous choisissez la Légion étrangère. Alors, pourquoi est-ce que le premier de la classe que vous étiez doit-il nécessairement choisir le premier corps d'élite français?
Mais ça, c'est toujours un mystère. Vous savez, c'était Montaigne qui disait « Si l'on me demande pourquoi c'était mon ami, je dirais parce que c'était lui, parce que c'était moi. »
Ah, c'est ça. C'est un peu ça.
Alors, je crois que c'est un peu ça. On dit pourquoi vous êtes marié avec telle femme. Alors, il y a peut-être les yeux, et puis c'est un ensemble. Pourquoi? Ça me plaisait à l'époque. Je trouve qu'il y avait un... Surtout à l'époque, comme je l'ai dit, c'était quand même l'époque de la guerre froide, c'était les années 75. Pour être bien pensant dans le système militaire, il fallait, comme on les appelait, et appartenir au corps blindé mécanisé qui faisait face au pacte de Varsovie. Et nous appartenions aux quelques troupes professionnalisées à l'époque, professionnelles, qui étaient relativement limitées. Ce que l'on a appris a posteriori, les Happy Fews, parce que c'était les seuls qui allaient intervenir un peu à droite à gauche, puis elles étaient peu nombreuses, notamment en Afrique et puis aussi au Liban, pour participer aux crises dans lesquelles on allait être emmenés. Donc c'est vrai, alors, parce que ça me plaisait, parce que c'était un peu le goût de l'aventure, et puis peut-être avec le recul, parce que, je ne dis pas que les soldats qui faisaient leur service militaire servaient mal, mais ils étaient...
Moins professionnels.
C'était la loi qui les contraignait à venir remplir les rangs de nos rangs. Et donc, même si, contre mauvaise fortune, ils faisaient bon cœur, ils considéraient le service national plus comme un impôt et une contrainte que comme une mission que reçoit chaque citoyen. Il ne faut se leurrer. Or, à la Légion étrangère, on n'avait que des volontaires, même si certains étaient volontaires parce que c'était leur seule voie de
salut,
leur seule issue, parce qu'ils voyaient que toutes les autres portes de la société, de leur société, ou du monde dans lequel ils avaient vécu, c'était fermé. Donc c'était un peu un refuge, mais ils étaient d'autant plus attachés que c'était leur seule voie de salut.
Mais vous êtes resté donc fidèle à la Légion étrangère jusqu'à occuper le plus haut poste de...
C'est ça, oui.
Vous avez été le grand patron de
la
Légion étrangère.
Voilà, j'étais appelle le père Légion.
Le père Légion.
Le père Légion, c'est-à-dire le général qui commande la Légion étrangère. Je précise quand même, parce que souvent on me dit « Ah ben oui, le général Dary était légionnaire. » Non, comme M. Mesmer, non. J'ai appartenu à la Légion étrangère, je suis officier français.
Oui, bien sûr.
J'ai fait Saint-Cyr et tout ça. Donc chaque fois que... C'est vrai que j'étais en corps de troupe. J'étais dans les formations de Légion étrangère, mais je suis officier français comme tout le monde. J'ai servi en état-major, à l'état-major des armées, à l'inspection de l'armée de terre l'année dernière, aujourd'hui.
Tout à fait. Mais nous allons y revenir. Oui, effectivement, vous faites bien de préciser. C'est pas vous avez un lien très fort avec la Légion étrangère, mais vous n'êtes pas de la Légion étrangère.
Je ne suis pas légionnaire, c'est-à-dire que je ne suis pas engagé comme légionnaire à titre étranger. Vous savez qu'à la Légion étrangère, la majorité des officiers, à peu près 90% des officiers, sont des officiers français.
C'est ça.
Et que simplement 10%. Sont des officiers qu'on appelle à titre étranger, c'est-à-dire pour la majorité d'entre eux, qui sont rentrés comme deuxième classe et qui ont franchi tous les grades, des simples légionnaires, sous-officiers, et qui ont acquis l'épaulette à à la sueur de leur front.
Alors, vous êtes illustré sur de nombreux théâtres d'opération. Vous êtes un grand spécialiste de l'Afrique, dont vous avez été l'officier responsable de la cellule pendant 3 ans. Votre vie d'action est un vrai roman. Je vous promets d'ailleurs un grand succès de librairie si un jour vous publiez vos mémoires, mais c'est peut-être pour une prochaine étape. J'aimerais simplement évoquer 3 épisodes qui, à bien des égards, sont symboliques de votre dimension d'homme d'action et de combat. Kolwezi, c'était au début de votre carrière, vous étiez jeune lieutenant. La Bosnie, parce que bon, c'est l'Europe, etc. À Mostar de 95 à 96, si j'ai bien compris. Et puis plus récemment, à la tête cette fois d'une brigade en Côte d'Ivoire. Là, à l'opération Licorne. Alors, Kolwezi, ça restera dans les mémoires. C'est une opération très médiatisée. Et les paras sautent sur Kolwezi. Alors, c'était votre première opération du feu. Enfin, c'est votre rencontre du feu.
Oui.
Vous pouvez nous rappeler un tout petit peu le contexte. Et là, vous étiez jeune lieutenant.
J'étais jeune lieutenant. J'étais au 2e régiment étranger de parachutistes, au 2e REP depuis 2 petites années. Hein, donc, chef de section de combat. Et puis, nous étions normalement à l'entraînement. Et un jour, on nous a dit... Il y a une alerte, mais les alertes, on montait à l'alerte régulièrement puisqu'il y avait peu de troupes professionnalisées à l'époque. Et donc, on a pris l'alerte et ce jour-là, bien, on est parti. Hein, on nous a prévenu à Soenzara qu'on partait pour Kolwezi. C'est-à-dire, on connaissait la destination, mais on ne connaissait presque rien sur ce qui nous attendait.
Et l'enjeu, c'était quoi, de Kolwezi ?
L'enjeu, c'était de sauver plusieurs milliers de ressortissants, européens pour la plupart, mais également des autochtones, parce que souvent, on oublie de parler d'autochtones qui payent un lourd tribut à ces massacres. Hein, parce qu'ils s'interposent, parce que c'est les premières victimes. Donc, d'une mort presque certaine, si on n'était pas intervenu.
Des atrocités. Hein.
Donc, il faut savoir que l'année précédente, en 1977, il y avait une offensive des ce qu'on appelait les Tigres, c'est-à-dire le FLNC, le Front de Libération Nationale du Congo, soutenu par l'Angola. Il ne faut pas oublier le cadre général. Hein. Je crois que le cadre général est très important. C'était à l'époque où les États-Unis étaient très repliés sur eux-mêmes. Il y a eu l'affaire du Watergate de 3 ans avant. L'année suivante, en 1979, il y aura la prise d'otage à l'ambassade de Téhéran. Donc tout ça pour montrer que le repli à l'époque de Jimmy Carter, qui n'a même pas, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais n'a pas laissé un grand souvenir dans l'histoire des
internationales.
Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand Reagan est arrivé, tout de suite, la situation a très rapidement changé. Donc, les États-Unis en repli, et donc, ils laissent le champ libre à l'URSS, qui va mener ce qu'on appelle une stratégie périphérique, étant bloqué par le rideau de fer et par les forces nucléaires et tactiques de l'OTAN. On cherche c'est ce que disait Lénine, en disant le chemin de l'Europe passe par l'Afrique. Oui. Et donc, à travers le Mozambique et à travers l'Angola, et par Cuba interposé, ils vont essayer de déstabiliser plusieurs pays, dont le Zaïre. Donc ils avaient mené une première opération en 1977, mais là, ils l'avaient fait assez progressive. La France avait aidé par des moyens logistiques et l'armée zaïroise avait été suffisante pour les bloquer parce que sur ces pays-là, une fois qu'on bloque une piste, eh bien, tout débordement en dehors des pistes est impossible, à moins de faire des débordements à pied, mais ce qui n'est pas possible sur des centaines de kilomètres. Là, en 1978, ils vont prendre la même tactique, c'est-à-dire attaquer à la fin de la saison des pluies, au moment où les pistes de l'atterrissage sont carrossables, donc c'est toujours à milieu, à mi-mai. Et ils vont faire ça par surprise, c'est-à-dire qu'à un moment, on se réveille, et puis par la radio, on apprend qu'ils sont déjà dans le cœur de Kolwezi et qu'ils commencent à regrouper les Européens et même à en tuer certains. Donc là, il y a une décision politique qui a été assez difficile à prendre, parce que la France est seule sur l'échiquier africain et européen, qui est difficile à prendre parce qu'on a peu de moyens, il faut le reconnaître. Hein, je dis souvent, la projection stratégique a été faite avec des avions réquisitionnés par UTAL, des avions de la gamme commerciale, et la projection tactique, les avions qui nous ont largués, il y avait 2 Français, et sinon c'était des Hercules américains qui étaient en place au Zaïre. Donc des moyens quand même assez comptés. Et puis, très peu de connaissances du terrain, donc ce qui fait que, comme le disaient souvent mes camarades, c'était en fin de compte un vol sans retour. On vous larguait en espérant que ça se passerait bien. Et si jamais c'était mal passé, on ne pouvait pas imaginer de renfort à moins de 2, 3, 4 jours.
Ouais. Hein? Donc là, il s'agissait de taper
donc,
juste pour les jours.
Voilà, c'est ça. Et puis, il fallait sauter au plus près possible de la ville, parce qu'on aurait pu se poser sur le terrain d'aviation qui est à 7-8 km, mais ça aurait été visible. Puis le temps de se rapprocher, on aurait accentué les massacres. Donc, il fallait faire vraiment un saut sur l'objectif, hein, comme les parachutistes savent le faire, mais sachant que, contrairement à ce qu'on pense, même si l'aura des parachutistes est énorme, l'histoire des opérations aéroportées je dirais, a presque autant de succès que de drames.
Hein, bien sûr. Arnhem.
Arnhem a été un échec flagrant de Montgomery. La Crète a été le tombeau des parents allemands. Tout alors qu'ils avaient remporté des succès, ils avaient permis l'invasion de la Hollande et de la Belgique quelques années ou même quelques mois auparavant. Donc, dans une opération aéroportée, comme dans une opération amphibie d'ailleurs, il y a toujours une phase qui est très sensible, c'est le moment où on change de milieu.
Très, très critique.
Il faut savoir que l'Overlord, le 6 juin, alors qu'il y avait un rapport de force énorme pour les Alliés, les Américains ont tenu du bout des doigts ces plages. Parce que c'est la phase de changement de milieu, c'est-à-dire où on quitte les bateaux, on arrive à terre. Donc, et c'est pareil qu'une opération aéroportée, une fois qu'on quitte l'avion, qu'on arrive à terre, on est dispersé, et là on est très vulnérable. Donc il y a une phase qui est très sensible. Une fois qu'on a reconstitué tactiquement son unité, ça va mieux. Mmh. Hein, mais...
Il y a une sorte de grande fragilité. Quoi.
Voilà.
Il y a eu la casse alors de votre côté
Il y a eu la tagarde. Au bilan de l'opération sur la première semaine, parce que l'opération a duré vraiment une semaine, après on est resté pour faire la présence pendant 15 jours, une semaine, on a eu 5 tués.
Ah oui, quand même, vous avez
vu 5
tués. Pas,
ce qui n'est pas énorme.
Ce qui
n'est
pas énorme, mais pas c'est toujours 5 tués.
Et puis, je crois une dizaine ou une quinzaine de blessés.
D'accord. Mais enfin, une opération quand même d'un très grand succès.
Un grand succès parce que c'était la première opération d'évacuation de ressortissants. Malheureusement, il y en a eu d'autres après. Je dis malheureusement parce que ces opérations d'évacuation de ressortissants, même si elles sont couronnées d'un succès tactique, ça reste toujours un échec politique ou économique ou humain. C'est-à-dire que ça montre la faillite d'un système de gestion, ça montre la faillite d'un équilibre économique ou ça montre la faillite d'un processus démocratique. Donc, alors c'est vrai que c'est bien de sauver la mise de sauver la peau de nos Européens ou même des autochtones, ce qui est normal. Mais souvent, ce n'était pas le cas de Colvisy, parce qu'après, il y a les Belges et puis les Marocains sont arrivés pour stabiliser, puis l'armée zaïroise. Mais quelquefois, le fait de retirer nos ressortissants, ça aggrave la crise parce que ça entraîne des pillages supplémentaires dans les villas qu'on a abandonnées et ça déstabilise tout
l'équilibre, en quelque sorte.
Tout l'équilibre économique parce qu'il y a plein de petites sociétés qui fonctionnent plus puisque les chaînes d'entreprise sont parties. Donc c'est l'ultima ratio, mais ce n'est pas une solution sur le long terme.
Et donc, c'était votre première épreuve du feu, si j'ai bien compris.
Pour moi, comme j'ai dit, la majorité du régiment à l'époque, il faut bien voir que les anciens d'Algérie, ils étaient se comptaient sur le doigt d'une main. Ah, ben, le chef de corps, le colonel Rulin.
C'était une nouvelle génération, en fait.
On était en 78, donc l'Algérie s'est terminée 17 ans avant. Donc, tous ceux qui avaient été moins de 17 ans de service, ils n'y avaient pas connu. Et puis, le REP avait été engagé au Tchad quelques 7-8 ans avant, donc il y avait quelques sous-officiers encore, ou quelques militaires du rang qui avaient connu le Tchad, qui avait pas quand même l'intensité d'Algérie, mais pareil, ils étaient les doigts d'une main. Je prends l'exemple de la compagnie, la 4e compagnie, qui était commandée par le capitaine Gray, qui deviendra plus tard d'ailleurs également comme moi, père Légion, la commandant de la Légion étrangère. Au sein de la compagnie, il y avait l'adjoint d'unité qui avait connu l'intervention.
Et alors, la première épreuve du feu, est-ce que c'est comme quand on saute en parachute pour la première fois, une grande peur ou un petit peu d'inconscient on est dans l'action.
C'est vrai qu'il y a toujours cette appréhension. Ce qu'il y a, c'est qu'on était très soudés. Je me rappellerai toujours les forces morales qui nous animaient. Un des souvenirs les plus forts que j'ai, c'est lorsque dans l'avion, on ne savait pas où on allait, on ne savait pas sur quoi on est tombé, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, on n'avait pas peu de renseignements sur l'ennemi, mais... En me retournant dans l'avion, je voyais la tête de tous mes légionnaires que je connaissais par cœur, qui me regardaient, et simplement ça, un clin d'œil, et ça suffisait pour renforcer les forces morales, et on se disait, je ne sais pas où on va, on y va ensemble, et avant qu'un bulldozer nous roule dessus, il faudra quand même qu'il prenne de la peine. Alors, je n'irai pas dire ce que disait Napoléon, c'est que la balle qui me tuera n'est pas encore fondue, mais on a quand même des armes, des munitions et une farouche volonté, plus la noblesse de la cause. Donc avant qu'on nous ratatine, excusez-moi l'expression, il faut quand même que l'ennemi mette du sien. Donc ça, c'est ce fighting spirit, et même cette force d'âme, je crois que c'est quelque chose qui est très fort dans ce moment-là.
Enfin, en tout cas, cette opération restera dans les mémoires françaises et surtout dans bien, bien d'autres armées, comme un exemple d'une réussite où il y a eu un grand chef qui a pris une décision opportune et courageuse. Et ensuite, une exécution sur le terrain absolument parfaite.
Et puis, quelque chose qui a été un élément qu'on oublie un peu parce que ça nous paraît évident, c'est que l'opération ne s'est pas éternisée. C'est-à-dire qu'on est resté 3 semaines. Au bout de 3 semaines, on est rentré. On a passé le relais à des Marocains et puis aux Aïrois. Puis les Belges aussi sont restés quelques temps, mais pas très longtemps. Or, actuellement, si je suis dit ce matin, là, j'étais interviewé par des journalistes sur les opérations. Je dis ce qui caractérise les opérations aujourd'hui, c'est leur durée. Ouais. Regardez, en Bosnie, nous y sommes depuis 1992. donc ça fait 16 ans. Le Kosovo, 99.
Ouais. Donc on sent
bientôt 10 ans. Le Tchad, je ne préfère pas donner de date parce que bientôt on va parler de génération. Donc on voit très bien que ces opérations, elles durent. Pourquoi elles durent ? Parce que ramener le calme, ce n'est pas construire la paix. Donc, pour ramener le calme quelque part, c'est vrai, mais ce n'est pas la paix pour autant. Et entre ramener le calme et construire la paix, il y a tout un gap. Alors on va dire, mais ça c'est pas un travail du militaire, et vous aurez raison de me dire ça, mais il n'y a que les militaires pour le faire, parce que c'est en zone incertaine, déstabilisée, on ne sait pas où on est, regardez actuellement l'Irak, hein, c'est quand même des débats très difficiles, hein, où on est en voie de stabilisation et de normalisation, mais c'est une situation qui est assez paradoxale et très difficile à mener, et il faut du temps.
Du temps. Et donc, alors, la Bosnie, vous en avez dit un mot tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voulez y revenir d'un mot. Par contre, une des phases très importantes aussi de votre carrière, de votre cursus, c'est la Côte d'Ivoire. Alors oui. Là, vous avez remplacé vos galons par des étoiles,
oui,
là, déjà.
Absolument, oui. Alors, la Bosnie, j'irai deux mots. Oui, hein, oui, parce que j'étais chef de corps, donc du 2e REP, où j'avais été chef de section. Et le régiment, on s'est trouvé engagé à plus de 1000 personnes du régiment, donc c'est qui est énorme. Hein, et avec ce qu'on appelle un GTIA, un groupe de tactique interarmes, c'est-à-dire un régiment renforcé de 1500 hommes, ce qui est énorme. Hein, ça a sans doute été l'opération la plus difficile que j'ai menée dans toute ma carrière, d'abord qui a été longue, hein, près de 6 mois, un terrain très difficile.
C'est-à-dire que l'ennemi, on ne savait pas très bien
la Bosnie-Herzégovine, les Balkans, c'est un terrain qui est très difficile, qui est connu pour ça. Il ne faut pas oublier que les Allemands y avaient été engagés pendant la Deuxième Guerre mondiale avec des, je ne sais pas combien de dizaines de divisions qui se sont cassées les dents.
Tout à fait.
Donc un terrain difficile géographiquement, difficile à l'époque en termes de climat. On arrive au mois de novembre avec des périodes de grand froid, des périodes de redoux, très très froid, moins 30 à Igman, plus 20 à Mostar, tous dans la même journée. À l'époque où il y avait beaucoup d'accidents de circulation, rappelez-vous la piste logistique entre les monts Igman et puis Sarajevo. Donc un environnement international assez complexe. Et là-dedans, il fallait commander ces 1500 hommes, imposer la paix. Une opération qui pour moi a été sans doute une des plus difficiles par sa complexité, peut-être pas par tellement les risques qu'on prenait, mais par sa complexité, par l'étendue de la zone.
Géopolitique en quelque sorte.
Oui, très sensible. Géopolitique, avec des règles d'engagement très strictes. Et puis, un environnement toujours incertain.
À la limite, Colvézi, c'était plus simple. Même si c'était peut-être plus...
Oui, c'était peut-être plus... C'était plus risqué au départ, parce qu'on savait pas où on allait. Mmh. Mais c'était plus simple parce que, il y avait un ennemi. Une fois qu'on a contrôlé le terrain, l'ennemi est parti. Et la situation s'est clarifiée.
Alors qu'après,
là, il fallait partager, éviter que les gens détruisent les territoires ou les infrastructures qu'ils allaient abandonner. C'était une opération très riche d'enseignement, mais sans doute la plus difficile.
Extrêmement formatrice pour vous. Oui. Alors, et donc, un mot maintenant peut-être sur le moment...
Licorne, alors.
Alors, les licornes, là,
alors,
cette
licorne,
fois-ci...
C'est sans doute la plus passionnante parce que vous êtes donc, au sommet de la hiérarchie militaire.
Oui.
Donc, vous avez d'un côté l'interface avec les autorités diplomatiques, hein, l'ambassadeur de France, M. Gilda Le Lidec, là, alors, je ne sais pas si c'est un scoop que je dis, mais il m'a demandé de lui remettre au mois de septembre les insignes d'officier de la Légion d'honneur, et je le ferai avec un grand plaisir. Ce sera un peu un signe ou un indice de l'amitié, plus que l'amitié, je crois, la complicité qui nous unissait. Hein, parce que dans toutes ces crises, ce qu'il faut bien voir, c'est la diversité des volets qu'il y a toujours.
Des différents acteurs.
Des différents acteurs, mais c'est surtout des différentes composantes. C'est ce qui caractérise les crises modernes. Vous avez bien sûr un volet militaire, sinon il n'y aurait pas de crise. Hein. Mais ce n'est pas seul. Vous avez aussi un volet diplomatique. Donc mais vous avez un volet économique, puis vous avez un volet culturel, puis vous avez un volet humain, puis un volet médiatique, et puis un volet même quelquefois cultuel. Et à chaque fois, vous êtes obligé de composer avec cet ensemble de tous ces différents volets pour monter votre manœuvre. Et donc, on a passé... une période assez exaltante, hein, qui a commencé de façon difficile, puisque le camp de Port-Beau était assiégé, et qui s'est terminée pour les 5 mois qui nous ont concernés par ce qu'on appelle la libération de l'Ouest, hein, le Grand Ouest africain de la Côte d'Ivoire, qui était quand même au moins d'espèces de voyous qui s'appelaient les forces Lima, ouais. Et que nous cherchions à maîtriser et à repousser au Libéria. Donc un grand intérêt parce que j'avais donc toutes les forces, des forces importantes, hein, entre 4 et 5 000 hommes en permanence. Un grand intérêt parce qu'au contact en permanence des plus hautes autorités, hein, dans le paquebot, on le voyait régulièrement, peut-être pas une fois par semaine, mais une fois tous les 15 jours, hein, en tête-à-tête ou pour des réunions importantes. Les autorités diplomatiques, les autorités étrangères avec les forces de l'ONU. Hein, à l'époque, c'était la CDAO, mais c'était... Et puis en même temps, un contact très près du terrain, parce que dans les ordres que vous donnez, vous devez être très précis. Ce n'est pas se perdre dans les détails, mais si vous n'êtes pas précis dans les ordres, eh bien, les règles d'engagement ne sont pas précises. Et puis, vous ne contrôlez pas vos hommes. Donc, vous devez être très précis dans les règles d'engagement et les règles de comportement.
Et avec une dimension politique, bien entendu, parce qu'il faut que vous soyez très près, bien sûr, représentant de l'État. Enfin, il y a toujours une dimension.
Il y a un leitmotiv chez nous qui dit qu'il y a toujours un caporal pour sauver la République, mais il peut y avoir aussi un caporal pour couler la République. Il y a une faute de comportement majeure d'un petit gradé. Je ne dis pas remettra en cause
non, mais ça
la mission,
compliquer
mais
beaucoup de problèmes.
Donnera des sacrés coups de griffe. Et s'ils étaient répétés, pourrait remettre en cause la mission.
Oui, alors donc voilà, on vient de voir que vous êtes un homme de combat avec des expériences multiples et variées. Vous avez été aussi un formateur, vous avez été responsable de l'entraînement aéroporté de la 11e division à Toulouse. Vous avez, dans plusieurs cas, été en situation de formateur. La formation, c'est quelque chose... Est-ce que vous sautez toujours
Non, je ne saute plus. J'ai beaucoup sauté à une époque.
Vous êtes un moniteur,
parachutiste. J'ai beaucoup sauté à l'époque, mais je ne me vois pas actuellement dire à mon épouse, à ma famille, oui. Cet après-midi ou ce week-end, je vais passer à un paraclub, aller passer le week-end à sauter. Et puis, si vous voulez, j'ai connu de telles joies. Il y a le saut, mais il y a aussi l'équipe avec laquelle
bien
on
sûr,
est. J'ai connu des sous-officiers et des cadres fabuleux à la division parachutiste. Et je pense que j'aurais du mal à retrouver autre part. Et donc là, j'ai arrêté. Alors, est-ce que je reprendrai un jour ? Je ne sais pas.
D'accord. Mais enfin, bon.
Mais je crois que pour en revenir au cœur du sujet, plutôt que mes états d'âme, je crois que la formation, c'est essentiel.
Oui.
Mon père me disait, si à l'entraînement, tu ne t'entraînes pas à sauter 1m80 ou soit en hauteur,
tu ne passeras.
Ce n'est pas le jour d'examen, tu vas croire que tu vas passer 1m70. Hein. Donc il faut s'habituer à sauter au-dessus, donc à faire ce qu'on appelle entraînement difficile, guerre facile. Je crois que la formation, c'est essentiel.
Mais vous avez mis la barre très haute, hein, parce que je vois vous avez eu un DEA de sciences politiques.
Je crois qu'il faut s'élargir l'esprit, parce que les crises modernes nous obligent à élargir l'esprit. Je crois que c'est ce que je disais, c'est les différents volets des crises modernes. La guerre a changé de forme, hein, de façon un peu simpliste, peut-être manichéenne. En 14, je ne dis pas que la guerre était simple, parce qu'il y avait des millions de morts, et je les respecte, et c'était difficile. Et quand vous allez dans ces tout petits villages de France, et vous voyez sur le monument aux morts des dizaines de morts, vous voyez que toute famille a été frappée hein, dans sa chair. Mais il y avait une tranchée, il y avait ce qui était d'un côté de la tranchée, c'était allemand, on tirait dessus, et tout ce qui était chez nous, eh bien, c'était ami. Donc,
les choses étaient claires, en quelque sorte.
Les choses étaient claires et simples. Même si il y a beaucoup de pertes. Nous, il y a beaucoup moins de pertes. Hein. Actuellement, les derniers drames qu'on a vécu, c'est le Drakkar avec 60 tués, mais ça remonte déjà à plus de 15 ans.
Et puis c'était presque autre chose. Oui, c'était un attentat, quoi.
C'est dans un cadre général. Ouais. Ah, mais sinon, si vous voulez, un tué, deux tués, même les Américains, vous n'avez jamais plus de 3 ou 4 tués. Quand un avion s'écrase, c'est plus d'accidents que des tués au combat. Mais des situations beaucoup plus complexes. Hein, parce que les armements sont plus compliqués, il y a une interprétation des différents systèmes d'armes, l'adversaire qui n'est pas plus sot que nous met un malin plaisir à aller se mettre en agglomération, en zone urbaine, à aller se mélanger avec la foule, à mettre les femmes et les enfants devant eux pour se protéger, c'est particulièrement bien joué des médias.
Les règles du jeu ont complètement changé.
Les règles du jeu ont complètement changé. C'est plus un jeu de dames avec les noirs et les blancs,
tout à fait. Hein,
c'est un jeu avec plein d'entrées. Et les amis d'aujourd'hui seront peut-être les adversaires de demain, les adversaires d'hier viendront peut-être vos amis.
Et gardez la
Côte d'Ivoire, les amis ont été là pour aider les Ivoiriens, et un jour de novembre 2004, ce sont eux qui nous ont tiré dans le dos et ont fait plusieurs morts dans les rangs de l'armée française. Donc toujours une situation toujours très complexe.
D'accord, donc un homme de combat avec une curiosité intellectuelle et la formation toujours en ligne de mire. Alors, en général, on arrive à la dernière partie de notre entretien.
L'avant-dernière, on dit chez nous, parce que la dernière, on est toujours trop jeune pour traiter la dernière. Il faut toujours dire l'avant-dernière.
Je note.
Je raconte une anecdote. J'ai appris ça à des gens étrangères. Quand je commandais ma compagnie, j'avais un centre qu'on appelait un centre IEC, instruction école de conduite, et j'avais un vieil adjoint en chef. Bon, qui, comme on disait de façon un peu simple, il ne suçait pas que des glaçons.
D'accord, je vois l'image.
Et un jour, à la fin d'un stage, il m'avait encore dit, il fallait que je préside la fin du stage, donc je disais, légionnaire, c'est bien, vous avez pris la conduite, mais maintenant, attention, il faut être vigilant, respecter le code, ne pas boire, etc., etc. Et puis, il y avait un pot, je me battais à chaque fois, parce qu'il mettait des bouteilles de pastis, je lui disais, c'est un mauvais exemple, etc. Bon. Puis un jour, je lui dis, bon, allez, je prends la dernière bière et j'y vais. Et il me dit, attends, très sérieux, mais mon capitaine, Vous êtes bien trop jeune pour boire la dernière bière. C'est forcément l'avant-dernière.
Je comprends maintenant votre remarque. D'accord. Donc, on va dire l'avant-dernière. Alors, bon. Alors, ce que je veux dire, donc, pour vous, ce 14 juillet, donc, ce sera une première, en quelque sorte, là, pour le coup.
Oui. Bon.
Et donc, alors, qu'est-ce qu'il emporte? C'est la fierté de la mission, le poids de la responsabilité. Les choses sont maintenant bien enclenchées, de toute façon.
Oh non, pour la fierté de la mission, non. L'important, c'est de... Je crois que c'est pareil, c'est une spécificité française, ce 14 juillet. Hein. Il y a peu de pays européens ont une manifestation annuelle où les armées, j'aime dire, se présentent devant leur pays, parce qu'il y a trois types d'auditoires. Bon, il y a d'abord le chef des armées, puis le gouvernement, la tribune officielle. Il y a tous les spectateurs qui sont le long des Champs-Élysées, puis qui regardent passer leur armée. Et puis il y a ceux qu'on ne voit pas, mais qui sont les plus nombreux, les 6 à 8 millions de téléspectateurs, car ça reste encore un événement qui est le plus regardé à la télévision, et pourtant c'est souvent un matin et un jour férié. Donc c'est avec une énorme audience à la télévision et une grande fidélité, qui va plutôt en s'accroissant d'ailleurs, ouais. Hein, quand on discute avec les grandes chaînes, qui va plutôt en s'accroissant qu'en diminuant. Donc c'est quand même, on a un devoir de réussite, hein, qui ne doit pas faire cacher les difficultés des zones d'ombre de la défense, mais c'est une opportunité de présenter notre armée. Donc c'est le but, c'est que ça se passe le mieux possible et de donner une belle image de nos armées.
D'ailleurs, il y a rarement des incidents, à part le problème qu'avait eu Jacques Chirac avec la tentative.
Oui, c'est
tout à fait exceptionnel, oui, et généralement c'est quelque chose qui se passe très bien. Mais ça met en œuvre donc une énorme mécanique.
C'est une énorme mécanique qui commence au mois de, je sais pas, au mois de novembre ou décembre avant. D'accord. C'est-à-dire avec quel est le thème retenu. Bon, ça c'est au niveau politique que ça se fait, mais les unités désignées, le volume des forces arrêtées, et puis après toutes les demandes préfectorales de réservation d'espace aérien, de Il y a trois aspects, si vous voulez. Il y a le défilé, il y a l'aspect multinational au début avec l'animation et puis le défilé multinational. Et après, l'après-midi, ce qu'on appelle les opérations de relations publiques, un peu dans Paris et sur l'esplanade des Invalides. Donc, il y a ces trois aspects. Donc ces trois aspects demandent beaucoup de préparation et beaucoup d'attention parce que, pour faire simple, hein, on déménage pas, on déplace pas un Charles Leclerc dans Paris de façon au claquement de doigts. C'est pas un vélo, c'est pas un Vélib, c'est pas un taxi. Donc il faut des reconnaissances itinéraires, savoir si on peut prendre tel pont, pas tel pont, etc. Donc c'est assez compliqué, mais ça se passe tout chaque année à la même date, au même endroit. Donc on est quand même bien rodé, on a quand même des mécanismes.
Avec une répétition la veille, non ?
Alors, il y a plusieurs répétitions. Les forces arrivent en général une semaine avant, vers le 7 ou le 8, et on commence les répétitions. Alors, le défilé à pied se répète sur le camp de Satory, ce qu'on appelle sur le plateau, là, sur le haut de Versailles, et le défilé en véhicule se répète à Villacoublay, sur l'aéroport. Voilà, on répète. Et quelquefois, le matin, notamment la première partie, on la répète les matins au lever du jour. Là, la préfecture de police interdit à la circulation les Champs-Élysées et la place de la Concorde. Ça nous permet, au lever du jour, de répéter. Au mois de juillet, il n'y a pas trop de circulation. Et puis jusqu'à 7h, 7h30, et après, on lève le camp. Donc, ça qui permet de bien roder, de bien caler la chronologie, parce que c'est quand même un élément de mobile, aérien, hélicoporté, équestre, à pied, motorisé,
oui,
et tous ces éléments qui ne vont pas à la même vitesse, il faut qu'ils doivent arriver au bon moment et au bon endroit. Donc ça demande une équation assez fine, bon, qu'on maîtrise bien, mais qu'il faut quand même répéter.
D'accord. Donc bien, les choses se passent bien. Il y a une innovation cette année.
Alors, cette année, le thème retenu a été l'Union européenne et les forces engagées au sein de l'ONU, et avec également un volet sur l'Union pour la Méditerranée. Donc, la partie Union européenne ne présente pas de difficultés. La partie ONU en présente un petit peu parce que le secrétaire général des Nations Unies tient à ce que les gens qui défilent en béret bleu soient vraiment des gens qui appartiennent aux forces engagées dans l'ONU. Donc on est obligé de les faire rentrer. Bon, elles ne sont pas très nombreuses. On va les faire rentrer de leur théâtre d'opération pendant une petite semaine. Ce qui pose plus de problèmes en termes diplomatiques, mais ça c'est au niveau politique que ça se passe, c'est l'Union pour la Méditerranée qu'on voulait mettre à l'honneur. Or, cette union,
c'est un peu sensible.
Oui, c'est encore sensible. Hein. Tous les pays n'adhèrent pas comme on voudrait qu'ils adhèrent.
Voilà. Et un vœu, c'est quoi ? C'est du beau temps ?
Le beau temps rend modeste parce que quand il fait beau, ça arrange bien les choses. Et quand il fait très mauvais, ça complique tout.
C'est un peu compliqué. Bon. Mais écoutez, mon général, nous arrivons au terme de cet entretien. Ce fut véritablement un plaisir d'échanger avec vous aussi simplement et aussi directement. Compte tenu de votre haute fonction et de votre expérience, d'hommes et de soldats et de chefs militaires. Alors, deux questions pour terminer, mais vraiment sous forme de clin d'œil.
Ça serait le pire. Hein.
En général, vous êtes un père de famille comblé. Vous avez 6 enfants, si oui. Je me souviens bien. Et je sais que vous portez une attention toute particulière à la jeunesse de notre pays, qui parfois est en mal de repères. Et est-ce que vous auriez un message à leur délivrer? Parce que vous avez récemment d'ailleurs présidé un colloque traitant de l'intégration eu regard à la culture militaire. Je sais que c'est une préoccupation pour vous, ces jeunes. Et l'armée, peut-être une...
L'armée ou peu importe l'armée, parce que je crois que l'important quand on a des enfants à élever, et mes enfants le savent bien, c'est que, excusez-moi de prendre une expression, mais ils la comprennent tous, hein, tout le monde la comprend, c'est qu'ils soient bien dans leur pompe.
Ouais, absolument.
Dire que je n'ai pas le... Et qu'ils soient militaires, pas militaires, l'important, c'est qu'ils trouvent...
leur voix, quoi. Hein,
qu'ils trouvent leur voix. Quand je formais des hommes, j'avais l'habitude de dire « Tout homme a une corde capable de vibrer, il faut trouver laquelle pour en tirer un son. »
Absolument, hein, c'est une très belle image.
Et donc, je crois que c'est important. Et le monde environnant, ou l'air du temps, est très trompeur. C'est très trompeur parce que on croit que tout est facile, alors que rien n'est facile. On fait croire que tout est gratuit, alors que rien n'est gratuit. On fait croire que quelque chose qui est acquis définitivement, rien n'est acquis définitivement. Et que la vie, ce n'est pas facile, la vie, c'est un combat. Hein, et c'est un combat, c'est pas le... Souvent, on dit que c'est un combat, il faut se battre. C'est pour se battre contre les autres, hein, parce qu'il y a aussi, il y a d'autres excès, c'est croire que c'est en tuant les autres qu'on arrivera.
Ouais,
c'est pas ça, la vie. Hein. C'est la vie, c'est d'essayer en permanence, d'abord, de trouver un équilibre permanent entre sa propre personnalité, sa vie familiale, sa vie professionnelle, et mettre toutes ces trois vies en cohérence. Et le combat d'un homme, c'est de se retrouver une cohérence permanente avec, de temps en temps, des priorités. Quelquefois, c'est sa formation personnelle, quand on va en stage, quand on se fait des petits déserts personnels pour réfléchir. Quelquefois, c'est la priorité, c'est la famille, quand on a des soucis familiaux, ou quand on se marie, ou quand on a une naissance. Hein, et puis, quelquefois, c'est la vie professionnelle, parce qu'on demande un surcroît de travail.
Vous essayez de donner un coup de main, donc, en tant que militaire. Je crois qu'aux
jeunes, il faut leur dire mais que rien ne leur sera donné. Hein, et si quelque chose leur est donné, il faut savoir le garder parce que rien n'est jamais acquis. Hein, et c'est pas, je sais qu'en disant ça, c'est pas dans l'air du temps.
Hein, on a une, à qui vous le dites ?
Quand vous regardez la radio et la télévision, hein, on a une société très individualiste qui fait croire aux jeunes que tout, en claquant dans les doigts, tout viendra.
Il faut aussi encore croire que oser, ça permet de gagner.
Mais, oui. Hein,
je crois que c'est
et
aussi...
Et que ce qui fait l'intérêt d'un travail, c'est plus dans le cœur qu'on y met, dans l'intensité de son investissement, plus que dans la nature du travail lui-même.
Bien, on sent que vous êtes très sensible à cet aspect. Juste un clin d'œil, hein, donc ce matin c'était le livre blanc, le 14 juillet n'est pas remis en cause.
Le 14 juillet, non, n'est pas remis en cause, hein, mais d'autres choses sont remises en cause.
Absolument. Mais c'est un autre sujet, peut-être l'objet d'une autre émission.
Absolument. Et
monsieur le gouverneur militaire, je suis convaincu que les auditeurs de l'antenne de l'Institut de France porteront désormais un nouveau regard sur le grand symbole de la République qui est le défilé du 14 juillet à Paris. Ils seront, j'en suis sûr, à vos côtés par la pensée, avec la fierté de mieux vous connaître et sans doute de comprendre vos prestigieuses fonctions. C'était un grand plaisir. Merci à vous, mon général.
Un grand merci. Et donc rendez-vous le 14 juillet à 9h30 ou 10h. Bravo, puisque ça s'adresse au monde entier. Donc pour caler sa montre, un grand merci.
Merci encore à vous, mon général.